Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette merveilleuse série de l'amour de Dieu. Nous sommes à l'étude numéro 6 et le titre que nous pouvons donner, c'est que l'amour est éternel. Voyez-vous, si vous portez une alliance, essayez de l'ôter. Pour certains, ça ne va pas tout seul, s'il y a des années qu'elle est sur le doigt. Mais vous pouvez l'ôter avec un peu de savon et examinez-la simplement un instant. Et vous verrez qu'elle n'a ni commencement, ni fin. Elle symbolise donc l'amour éternel, car il y a de la vie dans l'amour. Dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 3, verset 14, l'apôtre dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui ou celle qui n'aime pas son frère ou sa sœur demeure dans la mort. » C'est assez fort, n'est-ce pas? Si nous n'aimons pas notre prochain, surtout s'ils font partie de notre famille, en plus, nous demeurons dans la mort. C'est un beau verset, très fort, et nous révèle comment avoir la vie éternelle. L'amour est la vie. Nous sommes condamnés à mort à cause du péché. Cependant, Saint Jean déclare que si nous aimons, la sentence de mort est levée et nous sommes passés de l'état de condamnation à mort à l'état de vie éternelle. Là, on peut dire Alléluia. Il précise que si nous n'aimons pas, nous demeurons sous la loi de la mort. Nous pouvons dire que nous sommes sauvés, proclamer notre nouvelle naissance, avoir été baptisé par immersion, et j'en passe, et de nous vanter d'avoir la vie éternelle. Mais il y a un mais. Si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas avoir la vie, car l'amour seul est la vie. Et l'amour et la vie sont en quelque sorte liés ensemble et sont donc inséparables. Tant que nous n'aimons pas, nous vivons sous la peine de mort. Lorsque nous recevons la vie éternelle, nous entrons dans ce cycle éternel et sans fin. C'est pour cela que vous portez une alliance. Elle représente un amour impérissable. Merci Seigneur. L'amour dure à toujours parce qu'il vient d'un Dieu éternel dont l'amour est éternel. L'amour n'est pas seulement une qualité divine, c'est l'essence même de la divinité. Dieu est amour. Il est la preuve même de l'amour. Tout ce que Dieu fait est inspiré par l'amour. Dieu est éternel parce qu'il est amour et que l'amour est éternel, sans commencement, on l'a dit, ni fin. plus vous grandissez, plus vous allez grandir dans sa ressemblance, plus vous aurez de l'amour. Bien plus, vous serez vous-même en quelque sorte amour. C'est dans cet amour que réside le secret de la vie éternelle de Dieu. C'est aussi le secret de votre vie éternelle en lui. Vous direz, je pensais que j'avais l'amour le jour où je me suis converti. Mon ami, toi qui es à l'écoute, nous n'avons rien fait d'autre quand nous nous sommes convertis que commencer à aimer quand nous avons été sauvés. Le petit peu d'amour que nous avons éprouvé ressemble à celui du bébé, oui, du bébé pour sa mère, qu'il ne peut même pas reconnaître encore. L'affection du nourrisson pour sa mère doit donc être cultivée pour la confiance et l'amour qu'elle lui donne. Il a été créé pour aimer, mais elle a le pouvoir de faire grandir cet amour ou de le détruire. Non seulement elle peut faire grandir cette affection à son égard, mais le père et ceux qui ont une influence sur l'enfant peuvent lui apprendre également à haïr sa mère. Ça existe dans les divorces. Au fur et à mesure que nous croissons dans l'amour, nous parvenons à un stade de maturité et de perfection qui ressemble à l'état céleste. Voilà ce que produira dans nos vies une pleine immersion d'amour. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur terre. Il est venu pour nous immerger d'amour, pour nous baptiser de son amour. On a dit qu'il y avait trois sortes de baptême. Le baptême d'eau, témoignage de notre nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'amour. Nous prêchons le baptême d'eau, cette révélation donnée aux anabaptistes de Suisse qui leur causa en ce temps-là, de grandes tribulations, parce que ils voulaient être baptisés en étant adultes, en comprenant ce qu'ils faisaient, et ils ont été persécutés. Et puis, au début du XXe siècle, on a redécouvert la vérité sur le baptême du Saint-Esprit, et ceux qui l'ont expérimenté sont devenus les pentecôtistes, ou si vous voulez, les charismatiques. Nous sommes donc prêts maintenant à connaître le baptême d'amour. Quand ce qui est parfait sera venu, il y a de fortes chances pour que la suite soit le baptême de feu. L'amour est éternel. L'amour s'accroche. Il s'accroche et n'abandonne pas parce qu'il a le toucher de Dieu. Dieu a dit à la tribu d'Éphraïm qui rétrogradait. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Ou selon une autre traduction, comment t'abandonnerai-je, Éphraïm ? Comment te délivrerai-je, Israël ? Osée, chapitre 11, verset 8. Éphraïm avait commis des fautes, Israël s'était détourné de Dieu et s'était mis à adorer carrément les idoles. Le Tout-Puissant s'écriait : Je ne peux pas te laisser partir. Il les aimait toujours. Voyez-vous, aussi grave qu'ait été leur rejet de Dieu, il ne pouvait les abandonner. Il ne supportait pas l'idée de perdre ceux pour qui il avait eu tant d'espoir. C'était comme s'il lui arrachait un morceau du cœur. Avez-vous jamais aimé comme cela? Avez-vous jamais eu d'amour si grand, tellement grand, voyez-vous, que le Seigneur a dû intervenir? Oui, c'est merveilleux. Et cela, quelle que soit la façon dont on vous a traité autrefois, quel que soit le nombre de fois où on vous a brisé le cœur, on vous a rejeté. Certains ont été déçus, il y a de quoi. Mais vous ne pouviez lâcher prise. Vous comprenez alors de quel cœur notre Dieu, notre Père Céleste, aime même les rétrogrades. Et je suis content que le Seigneur soit marié aux rétrogrades. Car il dit en effet dans Jérémie chapitre 3 verset 14, « Revenez, revenez !» Fils et filles infidèles, nous dit l'Éternel, car moi, je vous ai épousés. Dieu aime celui qui est parti à la dérive. Il désire de le reprendre. Avez-vous, chers amis, un bien-aimé qui s'est éloigné de Dieu? Avez-vous un enfant qui a autrefois aimé le Seigneur et qui cherche à présent sa satisfaction dans les plaisirs misérables et corrompus de ce monde? Je veux que vous sachiez, il existe un amour qui n'abandonne pas. Alléluia pour cet amour tout-puissant, éternel, immuable, qui ne lâche jamais prise. Ça, c'est l'amour que Dieu veut verser dans notre cœur. Si nous pouvions aimer le monde comme Dieu l'aime, et c'est son plan, nous conduirions des nations jusqu'au trône de Dieu et des pécheurs au pied de la croix. De quoi manquons-nous dans nos églises? D'une seule chose, c'est d'amour. Ça, c'est la voie par excellence. Nos miracles n'ont pas tourné les multitudes vers Dieu. On a espéré, mais on a vu que ça ne suffisait pas. Il est temps de nous réveiller et de comprendre que les miracles n'ont pas pu conduire le monde à Christ. Il manque donc quelque chose. Soyons un peu honnêtes. Si nous pensons tout savoir, nous nous séduisons nous-mêmes et sommes insensés. Soyons donc honnêtes avec nous-mêmes afin de pouvoir tendre vers la perfection du pur amour de Christ. Que Dieu nous donne l'amour qui nous servira de force pour persévérer jusqu'à ce que toute la moisson soit entrée. Ça, c'est l'amour que Ruth avait. Ruth, l'histoire de Ruth dans l'Ancien Testament, elle est merveilleuse, cette histoire. C'est l'amour dans le cœur de cette belle, très belle Moabite qui l'a poussée à prononcer quelques-unes des plus belles paroles qui ont jamais été dites. Elle a dit « Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne d'avec toi, car tu iras où tu iras. » Oui, c'est ça. Il est dit « Car où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel. » Et ainsi, il y ajoute, « Si la mort seule ne me sépare de toi. » Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17. Donc Ruth ne connaissait rien, absolument rien des lois concernant les esclaves d'amour. Elle était dans un pays où on adorait les idoles, mais ces lois étaient gravées sur les parois de son cœur. Et là, sur la route de Judée, sur le point de quitter sa belle-mère, Naomi est de voir sa belle-sœur Orpha de s'éloigner et de retourner chez elle. Ruth se trouvait donc en face de la plus grande décision de son existence. Oui, car Naomi lui disait, « Ruth, tu ferais mieux de rentrer chez les tiens. Je n'ai rien à t'offrir, rien à te donner. Je ne suis plus qu'une mendiante. C'est tout ce qui me reste, et quand je serai revenu à Bethléem, je devrai mendier. Je ne peux te donner ni mari, ni maison. Je ne peux te garantir ni pension, ni ministère. Il faudra que je dorme sur le bord de la route. Il n'y avait là aucune sécurité attrayante ou aucune possibilité d'avancement. Elle savait que les gens qu'il avait connus secoueraient la tête en se moquant d'elle. Le chemin de l'obéissance est dur, mais il est juste. Car si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, nous l'attristons parce que nous ne sommes pas jamais, on peut dire que nous sommes conduits par l'Esprit Saint, et en ce moment-là, nous manquerons sa direction pour toujours. J'imagine un peu Ruth à ce carrefour de décisions importantes ce jour-là. Oh, combien de fois ai-je dû me tenir à la croisée des chemins où il fallait choisir? Ce n'était pas toujours facile. C'est dur. Dans ces heures-là, seul le plus grand amour peut l'emporter. Vous suivrez celui que vous aimez le plus, et j'espère pour vous que ce sera Dieu, votre Père bien-aimé. Voilà donc cette jeune femme elle est animée d'une affection qui n'est pas naturelle. S'il s'était agi de son mari ou de sa propre mère, on pourrait la comprendre. Mais il était question de sa belle-mère. Elle ne devait en rien se sentir responsable d'elle. Aucun lien de sang, comme le commandement de Dieu le dit, « Tu honoreras ton père et ta mère », ne la retenait, voyez-vous. Mais l'amour qu'elle portait à Naomi, cet amour n'était pas selon la loi, mais il était selon l'Esprit de Dieu, répandu dans son cœur par le Saint-Esprit, parce qu'il allait la conduire vers un nouveau pays et une existence totalement nouvelle. Il allait la faire entrer en possession de la lignée même et de la descendance de Jésus-Christ. Donc, elle devenait une des ancêtres du Seigneur. Comment était-elle parvenue à un tel honneur et une telle gloire, elle, une petite païenne qui avait toute sa vie adoré des idoles? Comment était-elle entrée dans un si grand honneur et une telle gloire? L'amour l'a rendue digne, c'est ça. Un amour qui ne lui permettait pas d'abandonner, qui ne périssait jamais, qui s'accrochait. Donc, un amour qui lui donnait le courage de quitter sa famille, son peuple, son pays, pour entrer dans une nouvelle terre inconnue dont elle pourrait ne jamais revenir et vivre avec un peuple totalement nouveau, aux mœurs et aux coutumes complètement différentes des siennes. Donc l'amour l'a envoyée et l'amour l'a qualifiée pour recevoir la gloire de cette grande et sainte vocation. Si Dieu ne fait pas votre promotion, alors personne d'autre ne peut la faire. Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne d'avec toi, car où tu iras, j'irai. J'imagine bien cette jeune femme. Tout ce qu'elle pouvait envisager devant elle, c'était des jours, des semaines, des années de vagabondage. Oui, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ce n'était pas facile parce que les Moabites et les Israélites n'étaient pas des grands amis, mais c'était des ennemis mortels. Leurs mœurs, leur façon de vivre était totalement différente. Voyez, même leur façon de penser, tout était différent. Mais l'amour lui donnait la force d'opérer ces changements. La grâce de Dieu, elle est donnée que à la mesure de l'amour qui règne dans notre cœur. Vous ne pouvez vous dévouer au service du Seigneur et laisser derrière vous tout ce que vous aimez si vous ne l'aimez pas, lui. Dieu, trois fois saint, et cela de tout votre cœur. Oui, il y a des strophes qui ont été écrites. la personne qui les a écrites est anonyme, on ne sait donc pas son nom, et cette personne, homme ou femme, a écrit « Oh l'amour qui ne m'abandonne jamais !»« Oh amour qui ne m'abandonne pas, je repose mon âme lassée en toi. Je te rends la vie que je tiens, afin que les profondeurs de ton océan rendent son cours plus riche et plus parfait. Ô lumière qui suit tous mes pas, je te cède ma torche vacillante. Mon cœur redonne ses rayons éphémères, afin que le feu de ton soleil rende son jour plus clair et plus brillant. Ô joie qui pénètre ma douleur, je ne peux te fermer mon cœur. J'entrevois l'arc-en-ciel au travers de la pluie, et sens que la promesse n'est pas vaine, le matin sera sans larmes. Ô croix qui me fait lever la tête, je n'ose te prier de me fuir. Couché dans la poussière, la gloire de la vie a disparu, mais du sol fleuri, écarlate, la vie qui ne finira jamais. Voilà donc le merveilleux amour de Dieu qui ne lâche pas prise, qui nous tient ferme, même lorsque nos voix ne lui plaisent pas toujours, qui nous aime encore. Oui, il nous aime encore. Pourquoi ? Parce que son amour est éternel. Chers amis, l'amour se trouve dans l'Esprit Saint. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Notez Romains, chapitre 5, verset 5. Et une version un peu plus moderne propose « Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir nos cœurs de son amour. » Et c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de tout le Saint-Esprit, de sa pleine mesure. Il y a l'amour divin, l'amour fraternel et l'amour sexuel. L'amour divin, par contre, durera pour l'éternité. Vous le possédiez déjà au commencement, avant même de naître. Cet amour divin éternel ne cessera pas. Vous ne le perdrez jamais. Même après avoir quitté cette vie mortelle, il continuera. L'autre amour, qui est sexuel, nous est donné temporairement par Dieu pendant notre passage sur terre. Il est beau, il est puissant quand il est utilisé dans ce que nous pouvons comprendre de saint et de élevé moralement. Cet amour nous dépasse parfois. Oui, elle peut aussi former un certain attachement. Mais cet amour restera un jour ou l'autre derrière nous, et cela avec nos corps, bien entendu. Notre corps spirituel, par contre, ne peut emporter cet amour dans le monde de demain. Il est donc très important de comprendre comment aimer vraiment. Nous devons veiller à ne pas être envahis par un amour éphémère que notre chair, en vieillissant, va peu à peu dédaigner. parfois. Aurons-nous donc l'affection? Pouvons-nous assurer l'affection que nous portons à une autre personne, soit celle qui traversera l'éternité, puisque elle seule durera pour toujours? Peu importe donc la manière dont on nous traite, cet amour continuera à être versé dans nos cœurs. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 8. Et là, il est déclaré « Qui nous a aussi fait connaître votre amour dans l'esprit ?» L'amour est spirituel. Il ne peut mourir puisqu'il appartient au domaine de l'esprit. Lorsque vous aimez quelqu'un de l'amour de Dieu, je dis bien de l'amour de Dieu, quelle que soit la manière dont il vous traite, eh bien vous continuez à l'aimer exactement comme le Seigneur continue à vous aimer, à m'aimer, moi qui a souvent désobéi et qui lui a fait de la peine, qui a même attristé le Saint-Esprit et probablement tous les anges du ciel. Oui, l'amour seul du Seigneur va pouvoir continuer, que ce soit donc la manière dont nous devons traiter cet amour. Car Dieu peut s'arrêter de vous aimer, il peut. Quelle que soit votre conduite, il continuera malgré tout ce que vous faites, pas toujours, et je plaisante, de très catholique. Il continuera quand même de vous aimer. Vous n'avez pas mérité son amour, moi encore moins. Vous l'avez parfois méprisé, insulté, refusé, rejeté. Vous l'avez même traîné dans la boue et Dieu vous aime encore. Et il vous dit, comment puis-je te laisser? Comment puis-je t'abandonner? Son cœur est toujours attaché au rétrograde, à l'infidèle. Qu'importe la façon dont les hommes ont agi avec lui, il les a aimés. Et s'il peut faire cela, nous le pouvons aussi quand il vit dans notre cœur. Peut-être votre femme a cassé quelque chose qu'elle a laissé tomber de grande valeur. Peut-être à la place de l'insulter, pourquoi pas la prendre dans vos bras, de la rassurer, de l'embrasser tendrement et de lui dire, chérie, c'est passager ce qui vient de se casser. C'est passager. Mais notre amour, lui, n'est pas passager. Il doit rester jusqu'à la fin. Je veux vous avertir, ne laissez jamais la moindre particule de haine entrer dans votre cœur. La haine, elle vient pas de Dieu. On a donc le droit de dire qu'elle est satanique. Par contre, l'amour est divin et saint. Vous devez offrir à Dieu un cœur pur et propre. Il pénètre votre cœur et il voit tout. Il voit la méchanceté, la rancune et l'amertume. Ce serait absolument indigne de donner à Jésus un cœur entaché de ténèbres. Donnez-lui un cœur parfait, un don perfectionné par l'amour. L'amour de certains cœurs m'a stupéfait. Quelle force! On les a ridiculés, découragés, peu importe. Ils continuent à aimer la même personne, jour après jour, année après année, même quand les cheveux sont venus tout blancs et qu'il y a des rides dans son visage. Et cette affection ne les rend pas amers, jamais, mais les embellit, parce que l'amour rend beau, car il vient de Dieu. C'est un courant d'eau qui traverse votre vie. C'est une source qui vient du ciel. C'est ce qui en fait la beauté. Elle embellit celui et celle qui est laid et rajeunit la personne qui est devenue âgée. Pourquoi cela? Parce que Dieu possède une jeunesse éternelle et qu'il est amour. Quand l'amour divin coule en vous, il efface les rides de votre visage. Il vous fait étinceler. L'inspiration d'un nouvel amour vous rend radieux. Le vieillard de 70 ou de 77 ans va se sentir comme s'il avait rajeuni. C'est déjà souvent arrivé, et le monde regarde et ricane sans trop comprendre. Il y avait un enfant qui est devenu adolescent. Sa maman, qui était seulement une sorte de servante chez des gens aisés, parce qu'elle n'avait pas de diplôme. Elle travaillait du matin au soir. Elle avait les mains abîmées. Elle avait des rides. Elle avait tout fait pour que son fils puisse faire des études. Et quand il a eu le diplôme, et quand il a eu sa première place importante, il est allé vers sa maman. Excusez-moi, je suis ému. Il s'est agenouillé devant elle. Il a embrassé ses mains abîmées. Et il a dit, avec des larmes qui coulaient sur ses mains ridées, il a dit, « Maman, je t'aimerai jusqu'à la mort, et même jusqu'après la mort. Et je vais aimer le Seigneur comme tu me l'as appris. » Ça, c'est de l'amour. C'est du vrai amour, ça. Pardonnez-moi de mon émotion. Cette histoire est authentique. Comment l'amour peut-il rajeunir? Parce qu'il a de la jeunesse en lui. Et pourquoi y a-t-il de la jeunesse? Parce qu'il possède la vie, et la vie engendre la vie. Dieu ne vieillit jamais. Il est vrai qu'il a vécu plus longtemps que nous tous, mais il est éternellement jeune, il ne changera jamais. Dieu possède le secret de la jeunesse en lui, ce secret que l'humanité a cherché de tout temps, qui lui a échappé parce qu'elle pensait le trouver dans les éléments extérieurs, alors que depuis toujours il est à l'intérieur. Dieu est amour. Voilà le secret de la jeunesse. C'est l'amour qui vous fait renaître, rajeunir et revivre. Et pourtant, il y en a tant qui ont peur d'aimer parce que dans leur attachement, ils ont autrefois été blessés et en bâtissant autour de leur cœur une cuirasse dure et froide, ils disent « Ah ah, je ne veux plus aimer, ah pas moi, car j'ai appris la leçon et c'est la dernière fois, je ne vais plus jamais me faire avoir. Aucune femme ne me fera plus souffrir, jamais plus. » Oh oui, oui, nous avons tenté de nous protéger et nous avons nui ainsi et comment à notre âme et esprit. Nous avons tort de ne pas aimer parce que nous avons été créés par un Dieu d'amour dans un acte d'amour pour être aimés et communiquer l'amour. Attention, ça n'a rien à faire avec de la sexualité, vous l'avez compris, merci. L'amour doit être plus qu'une simple attraction physique. Puisque je vous dis cette phrase, il me vient à l'esprit une histoire incroyable. Elle s'est donnée dernièrement à la télévision allemande. Je ne sais plus comment est le titre de cette émission. Est-ce que c'est Hof und Himmel? Et là, il y a eu donc un jeune mari qui a pu se marier malgré qu'il était complètement infirme. Il n'avait pas de bras et pas de pieds. Et la personne qui faisait l'interview lui a demandé « Est-ce que vous aimez quand même Dieu qui vous a laissé ainsi ?» Et il a répondu « Plus que jamais, j'ai appris à l'aimer encore beaucoup plus fort. » Parce que ce n'est pas lui qui a voulu cela. Et l'ennemi voudrait que je renie mon Dieu, mais je ne ferai jamais une chose pareille. Et même quand il croyait qu'il ne rencontrerait jamais quelqu'un qui puisse l'accepter sans bras, je dis bien sans bras et sans pieds, qu'il faut porter sur les toilettes, et vous comprenez que c'est humiliant, ou si c'est pas n'importe qui pourrait faire cela. Et une jeune fille a décidé dans son cœur de l'épouser. Ils se sont mariés, ils ont même eu un enfant, et c'est un couple des plus heureux du monde. Ils sont invités partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Allemagne dernièrement, pour témoigner. Et il y a des milliers de personnes qui ont été sauvées simplement, non pas par une belle prédication sophistiquée, simplement par leur témoignage. C'est magnifique. Il y a même des gens qui ont carrément pleuré en entendant combien ils s'aiment et combien ils aiment leur Sauveur bien-aimé, leur Seigneur. C'est une histoire aussi très belle. Oui, ça me revient, ça s'appelle Hof und Himmel. Vous pouvez trouver cela, moi je n'ai pas Internet, sur la télévision allemande, et je vais vous dire exactement à 18h. Oui, donc je répète que l'amour doit être beaucoup plus qu'une simple attraction physique. Celle-ci, l'attraction physique, passera un jour avec le temps. Le corps se déforme, les cheveux se raréfient, les dents commencent à branler, la peau se plisse et les yeux brillants se cachent derrière des lunettes. Mais l'amour qui est né de l'esprit, cet amour-là persiste jusqu'à la fin. Alléluia. La mort réclame votre bien-aimé et la tombe le couvre. Il ne vous reste qu'un souvenir. Mais l'amour continue parce qu'il est né de l'Esprit Saint. Ni la vieillesse, ni la maladie, ni la disparition de la jeunesse ou la mort ne peuvent interrompre ou détruire ce grand don de l'amour. L'harmonie demeure entre les esprits, même si l'un est au ciel et l'autre encore sur terre. Je connaissais, il est maintenant vers son Seigneur, un homme qui a perdu sa femme, qu'il a aimé tellement. Elle est morte du cancer. Et cet homme continuait, évidemment, il y en a qui vont dire c'est ridicule, à préparer la table le matin, le petit déjeuner, une petite sous-tasse et une tasse pour sa femme qui n'est plus là, et pour lui. Et il lui dit, nous allons maintenant remettre notre journée au Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Et je dis bien, elle n'est plus là, mais pour lui, elle est là. Quand il part faire les commissions, les achats, parce qu'il faut bien se nourrir, il dit, ma chérie, je pars maintenant, mais je reviens sitôt que j'ai fait les achats et le Seigneur t'aime. C'est une histoire authentique. On peut la critiquer, on peut dire il aurait eu besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, etc. Mais entre nous, je ne crois pas qu'il avait besoin de psychiatrie. Moi, je ne le crois pas. Je trouve ça magnifique. Et la prière les a unis devant le trône de Dieu, où ils se retrouvent un jour. Pardon. Oh, la belle harmonie de l'amour. C'est le duo de l'amour. C'est le chant céleste de l'Esprit-Saint. Elles le verront face à face, éclater de joie, exulter ensemble, nous dit Ésaïe, chapitre 52, versets 8 et 9. L'amour est la mélodie du ciel. Vous n'avez besoin ni de paroles, ni de notes. C'est déjà un chant. et la musique jaillit du cœur qui est rempli d'amour. Quand nous sommes en étroite communion, nous avons une belle harmonie parfaite dans un chant qui ne connaît pas de limite de temps ou d'espace. Chers amis, voici le témoignage d'une femme missionnaire. Sigui et moi, c'est ce qu'elle dit, étions un soir dans un restaurant. Je jetais un coup d'œil sur la table voisine et là j'ai vu quelque chose qui m'a fait venir les larmes aux yeux. Un couple dans la trentaine, à en juger par l'apparence, était là attablé. Les doigts de l'homme étaient tous, oui tous, amputés. Et je voyais comment sa femme l'aidait, comment elle l'aidait à manger et comment elle le servait, comment elle lui préparait la nourriture, à découper la viande. Mais c'est donc le témoignage de cette femme missionnaire. Mais ce qui me fascina fut l'extraordinaire regard d'amour de leurs yeux. Ils essayaient de lui prendre, lui a essayé de lui prendre la main. Évidemment, il ne pouvait pas, mais il n'en avait pas la possibilité. Il caressait les mains de la jeune et belle femme de son moignon, et elle caressait ses moignons, ses mains, son doigt. Oui, j'ai dû baisser la tête, dit cette missionnaire, et j'ai dû détourner mon regard, car la scène était trop sacrée pour qu'on l'observe plus longtemps. Il avait perdu ses mains au Vietnam. On aurait dit qu'elles avaient été arrachées par un obus. Plus tard, au moment de partir, je me suis approché de leur table. J'ai mis une main sur leurs épaules et j'ai dit « Vous formez un merveilleux couple. C'est beau de voir quel amour formidable vous avez l'un pour l'autre. Ne le perdez jamais, cet amour. » Et ils m'ont regardé, souriant. Ils ont dit « Oh, merci. » Puis lui, l'homme sans main s'est levé et a ajouté, comme c'est gentil, tellement gentil à vous d'être venu nous le dire. Et en marchant avec Sigui jusqu'à la voiture, je savais que j'avais entendu la plus belle chanson d'amour, car l'amour est une douce musique. L'amour est une harmonie. L'amour est beau, même si les mains sont mutilées et les doigts absents. J'ai perdu ma merveilleuse épouse, que je nomme ma sainte épouse. Ça engage que moi. Il y a plus de 22 ans, par négligence, par faute médicale. Je ne souhaite à personne ce genre d'épreuve, comme je ne souhaite non plus à une mère de perdre son enfant. Bien au contraire. Il y a donc une caresse de la main que l'on peut sentir, même venant d'un moignon. Oui, c'est vrai. Chers amis, nous allons terminer par une très courte prière, car je suis un peu trop ému pour réfléchir à une importante prière. Disons ensemble simplement: ô Seigneur, pardonne-moi quand j'ai manqué de manifester de l'amour, soit pour mon conjoint, soit pour mes enfants si j'en ai, soit pour mon prochain. Pardonne-moi et aide-moi à aimer davantage, à aimer comme toi tu nous aimes, sans critique, sans essayer de voir que le négatif dans la personne vis-à-vis de nous, mais de l'aider au contraire à devenir positive et à dire au Seigneur: Seigneur, avec toi tout est possible, sans toi il est vrai que cela devient difficile, mais avec toi je n'ai pas de raison d'être négatif, je n'ai pas le droit d'être négatif, je n'ai pas le droit de me plaindre, car il y a des millions de gens qui n'ont même pas à manger à leur faim, et des millions qui n'ont même pas de l'eau potable. C'est pas moi qui le dis, ce sont les nouvelles à la radio, à la télévision qui nous l'apprennent. Aide-nous simplement, Seigneur. Et je terminerai cette étude en disant: mes chers auditeurs, toi qui écoutes, toi mon frère et ma sœur, aimons-nous davantage. Aimons-nous davantage. Vous ne saurez jamais ce que c'est jusqu'au jour où vous avez perdu votre conjoint, que ce soit votre mari ou votre épouse, ce que vous auriez peut-être dû faire encore mieux pendant qu'elle ou lui vivait encore. Oui, demandons au Seigneur, à la place de demander tous les dons ronflants, extraordinaires, voyants, demandons simplement le don d'amour, le don d'aimer. Et je vous quitte maintenant, simplement, dans cette pensée. Aimons-nous davantage les uns les autres. Au revoir, mes très chers amis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Au revoir.